du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver. Numéro 742 du coq à l'âne. Nouvelle version, le coq à l'âne podcast que vous retrouvez une fois par mois sur alpin.com. Aujourd'hui, les coqualiens et hyènes, s'il vous plaît. Laetitia Allemand qui est avec nous. Salut Laetitia.
Bonjour Thierry.
Nous avons Jean-Claude Hérault.
Bonjour Thierry.
Nous avons Bruno André.
Bonjour à tous et meilleurs vœux puisque c'est la première,
c'est vrai.
Première de l'année. Hein.
On peut encore le dire, on peut encore se souhaiter une bonne année, se faire des petites pâtes au cul aussi au passage, on a le droit. Et notre invité aujourd'hui, c'est Éric Gord qui est avec nous, président fondateur d'Axum Travail Temporaire et ancien président de la CCI.
Bonjour à tous, ravi d'être là pour la première fois.
Voilà, c'est une grande première. Alors, avant de parler travail avec toi, Eric, on va d'abord faire un coup de chapeau pour notre coqualienne, Laetitia Allemand, hein, qui s'est vue coiffer du titre de vigneronne de l'année par le magazine Vitisphère. Parmi
Merci
les
beaucoup.
20 personnalités du vin qui comptaient en 2022, félicitations. Qu'est-ce que t'as gagné ?
Merci beaucoup. Bah, j'ai rien gagné.
À part la notoriété.
De la notoriété,
ça,
quand même.
Ça va être pas mal.
Ça m'a donné une sacrée visibilité. J'avoue que je n'imaginais pas recevoir autant de coups de fil derrière. Enfin, j'allais dire des gens de la filière, mais au national.
Dans les 20 personnalités, il y avait de tout. Je veux dire, il n'y avait pas que des filles, il y avait aussi des garçons.
Ah non, il y avait 7 filles et 13 garçons. Et puis, il y avait des personnes très connues, comme Stéphane de Renoncourt, qui est un vigneron conseiller en œnologie du côté de Bordeaux. J'étais vraiment surprise et flattée. Je crois que c'est grâce à la mobilisation des Hauts Alpins et des médias Hauts Alpins qui ont soutenu la candidature.
En tout cas, ça nous a bien fait plaisir. Ouais. Puis, ça fait un joli coup de projecteur du part pour toi, hein, pour ton travail de tous les jours. Et puis, pour notre région et puis pour notre département. Ça fait vraiment très bien. Donc encore félicitations Laetitia.
Et bravo.
On va parler boulot. Éric Gord, Axum Travail Temporaire. Dis-moi Éric, ne deviendrait-on pas les spécialistes en France du travail temporaire ? Alors je sais que ça va faire grincer des dents autour de la table, surtout au fond de la table. On a le sentiment que le travail en France effectivement devient de plus en plus très accessoire, non ? Et la preuve, il y a un sondage qui est sorti assez inquiétant cette semaine. 20% des travailleurs jugent le travail essentiel contre 60% en 1990. Aujourd'hui, les Français veulent que le travail s'adapte à eux et pas le contraire. Est-ce que tu es confronté aussi à ce genre de problème, Eric ?
Oui, et pas que depuis quelques mois.
Ouais,
Parce que ça date. Si on existe à la base, c'est pour aider les entreprises à pallier à des renforts d'activité ou à des remplacements de personnel. Mais en fait, ça s'est quand même plutôt pas mal démocratisé. Et aujourd'hui, effectivement, on a vraiment des travailleurs professionnels de l'intérim qui ont une qualification, qui savent se vendre et qui préfèrent avoir cette liberté et ne pas avoir ce lien direct avec une entreprise. Mais ça existe quand même depuis plusieurs années. Mais ça s'est bien renforcé ces derniers mois et après Covid. Où un petit sentiment de liberté. Et donc, nous, qu'on apporte quelque part pour ceux qui ont une qualification. Hein, parce que ça ne répond pas forcément à toutes les demandes.
Alors on sait que les entreprises ont du mal à trouver aujourd'hui du personnel. Et est-ce que ton entreprise de travail temporaire a du mal aussi à trouver des gens qui sont là pour remplacer ceux qui devraient être là mais qui ne sont pas là et c'est compliqué.
On a une vraie difficulté depuis 2021 où on a vraiment eu une grosse relance et une grosse reprise. Mais alors 2022, ça a été l'enfer.
Ouais.
Et là, on a le démarrage d'année aussi très très compliqué. Et en plus, sur toute qualification, donc tout niveau de qualif, qualifié, pas qualifié, ingénieur, pas ingénieur, tout type d'activité, tout type de secteur d'activité, et on s'arrache les cheveux. On met en place des moyens monstrueux. Aujourd'hui, il y a plein d'acteurs sur le marché de l'emploi, parce qu'on a un organisme qui est censé être pour l'emploi, qui est un peu incontournable, mais qui... Voilà. Je sais qu'il y en a déjà des interlocuteurs précédents du mois de décembre
qui ont
déjà un peu tiré à boulet rouge sur Pôle emploi, donc je ne vais pas mettre une deuxième couche.
On parlait de monsieur Bigot, tu peux le dire.
Hein. Monsieur Le Bigot, de Guillaume, qu'on connaît bien, puisqu'on travaille beaucoup avec lui. Mais aujourd'hui, effectivement, on est obligé d'aller sur des supports, qu'il y a un vrai marché de la recherche d'emploi. On entend Indeed, Le Bon Coin, et ainsi de suite. On est sur des marchés fructueux qui coûtent... Nous, on est obligé de prendre des abonnements avec ces structures-là, qui sont souvent américaines d'ailleurs à la base, en tout cas pour ce cas d'Indeed. Mais on a des abonnements à 1 000, 2 000 euros par mois pour juste être visible, capter du CV. Donc on a tout un tas de... Notre métier évolue aussi beaucoup beaucoup dans cette recherche, mais avec une grande difficulté. Ouais.
Alors, c'est aussi l'incapacité des entreprises à faire ce travail-là, parce que vous êtes dedans en permanence, mais une entreprise comme nous, pour les structures que je représente, on n'est pas des professionnels du recrutement, et on a un réel souci, parce qu'aujourd'hui, avant on passait une annonce, comme tu dis, à Pôle emploi, maintenant, ça marche pas, quoi. Il faut aller au-delà, quoi. Et c'est vrai que bah, nous, les entreprises, on peine, quoi. On peine parce qu'on sait pas, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas recruter. Surtout les petites entreprises. Les grosses, elles ont toutes des structures pour recruter, mais nous, les petites...
Et le tissu local est 95% de TPE-PME qui ne sont pas structurés pour le faire, donc ils sont obligés de s'y mettre. Donc, moi, rien que dans mes deux structures, Axiom et Humanis, on est quand même 11 recruteurs, quoi. Et on recrute du 7 jours... pas 7 jours sur 7, mais en tout cas 5 jours sur 7, on est à fond sur le recrutement, quoi. Voilà, c'est un boulot à part entière, un vrai métier, quoi.
Et est-ce que vous développez le service aux entreprises comme ça, en disant, est-ce que vous recrutez pour les autres, par exemple? Parce que, en fait, vous recrutez pour vous, pour placer dans les entreprises qui vous demandent.
Oui, mais au final, c'est un peu la même chose. Parce que nous, on recrute via un besoin d'une entreprise.
Oui.
Donc, on est l'employeur de l'intérimaire pendant sa durée dans l'entreprise. Mais il nous arrive aujourd'hui, de façon ultra courante, qu'à la suite d'une période d'intérim, la personne soit détectée comme intégrable dans l'entreprise. Et donc, on est un peu un sas d'intégration dans l'entreprise. Et puis, on a aussi une activité de cabinet de recrutement qui nous permet de faire entrer directement dans l'entreprise. Et là, on facture un forfait de prestations de recrutement. Comme un cabinet de recrutement, voilà.
Alors, on va parler du travail.
Alors, ce qui est étonnant, les derniers chiffres qui sont tombés ce matin sur l'emploi, les chiffres de l'emploi s'améliorent. C'est-à-dire qu'à la fois, la constatation que vous venez de faire, l'état des lieux, je le partage, parce que moi, en tant que responsable également, j'ai les mêmes difficultés pour trouver des salariés. On a eu des départs à la retraite, on a eu beaucoup de mal à trouver. Bon, on a fini par trouver, mais on a pas mal ramé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'alors qu'on a du mal à trouver des salariés, parallèlement à ça, la situation de l'emploi s'améliore, alors qu'on est dans une crise plutôt avec l'inflation et tout ce qui se passe. C'est tous les commentaires qui étaient faits ce matin. Moi, je pense qu'il y a un changement au niveau du travail et qu'on a du mal à s'y adapter. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs.
Oui.
Donc des créations de on ne peut pas vraiment dire que c'est des entreprises, hein, ils créent leurs propres emplois, du coup ils ne sont plus sur le marché de l'emploi, ils sont ailleurs. Il y a aussi dans les nouvelles générations, moi j'ai eu une discussion ce week-end, c'est assez étonnante, c'est qu'aujourd'hui les jeunes disent « mais moi je ne veux pas de CDI, je veux du CDD ». Ça, c'est du jamais vu. Hein.
Ouais.
Il y a une évolution très rapide de la situation de l'emploi et auquel nous, les anciens, et puis les entreprises en général...
Mais nous, on est désarçonnés face à ça.
On a du mal à s'y adapter.
Là, autour de la table, on a que des vieux. Excusez-moi, ouais, enfin, que des vieux.
Mais tu peux le dire. Hein. D'ailleurs, on va préparer la retraite. Parce que
c'est vrai que les jeunes, ils ont une conception du travail qui est complètement différente de la nôtre.
Ce qu'on avait, nous, mais même à leur âge.
Mais oui, à leur âge, complètement. Et puis, ils ont des attentes. Moi, j'ai de la chance pour le coup d'avoir un métier qui touche à l'environnement. Il y a des gens qui sont vraiment en quête de sens et qui sont surdiplômés et qui pour le coup veulent pas aller faire un métier d'ingénieur mais veulent venir faire les vendanges chez moi parce qu'ils trouvent que ça a du sens, que c'est lié à l'environnement, etc.
Oui,
et la valeur travail a complètement changé.
Complètement d'accord avec toi, et on a eu une réunion de travail le jour dans l'économie sociale et solidaire. On s'aperçoit que sur les petites structures qui sont proches de l'écologie, qui sont autour de ces problématiques-là, il n'y a pas de problème de recrutement. Il y a beaucoup de jeunes très diplômés qui viennent. Donc aujourd'hui, il y a une recherche de sens. Et donc moi, je pense, et je n'ai pas de conseil à donner à personne, mais je pense que si les employeurs ne font pas un effort également pour modifier leur façon de travailler, d'agir par rapport aux salariés, ils vont avoir vraiment des gros problèmes.
Bah de toute façon, c'est pas qu'il y a
vraiment de gros problèmes.
De toute façon, comme je disais tout à l'heure, hein, le Français aujourd'hui veut que le travail s'adapte à lui et pas l'inverse, alors qu'avant c'était l'inverse. Avant, il fallait que nous, on s'adapte à l'employeur à la société.
Moi, j'ai eu ça, hein, j'ai eu des demandes un peu. C'est vrai que moi, je fais le gros de mon chiffre d'affaires avec les particuliers. Je le fais l'été, au mois de juillet-août. Et il m'est arrivé, pour moi c'était évident que si je recrutais quelqu'un pour ma boutique, il fallait que cette personne soit présente en juillet-août et elle pouvait prendre ses vacances un peu en décalé, ces deux semaines, etc. Mais ça me paraissait normal. Et c'est vrai que je me suis confrontée face à des gens pour qui c'était pas du tout évident et qui disaient, bah non, on trouvera d'autres solutions, mais moi juillet-août, je peux pas être là. Enfin, je veux prendre 15 jours en plein milieu de juillet-août. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est ma boutique, c'est là qu'elle fait son chiffre. Donc c'est,
oui, tu peux pas.
Ouais, je ne peux pas.
C'est impossible.
C'est sur 2 mois.
Et c'est sur 2 mois, oui.
Non, mais donc, je pense qu'on est effectivement dans une consommation du travail.
Ouais.
Et puis, il y a aussi quand même un facteur, je pense, qui est quand même beaucoup plus général, c'est qu'on manque quand même de stratégie aussi pour la jeunesse. Ouais. Et que moi, il y a 30 ans, quand j'ai signé un CDI, c'était champagne, c'était une fête de famille, c'était tout ce que vous voulez. Ouais. Mais parce qu'on savait que le CDI nous permettait d'avoir la première étape, d'avoir un salaire régulier, de pouvoir construire un premier achat, de construire une vie familiale. Ouais. Donc, un modèle qui était
de partir de chez tes parents,
de quitter, d'être
d'être autonome,
un foyer, d'être autonome, voilà. Et cette vision un peu de longue durée, je pense qu'on a une vision qui est plutôt court-termiste. En plus, si on écoute en plus la radio, la télé de longue, rien ne nous amène à une stratégie dans la durée. Quoi.
Ouais.
On n'a pas un fil rouge qui nous amène à un bien-être.
Et
quoi,
en plus, on continue dans l'erreur. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un problème d'adaptation. Là. Si on ne fait rien, on va avoir des problèmes. Et on les a déjà. Mais on continue dans l'erreur. Je vois par exemple sur les saisonniers. Enfin, moi, depuis des années, je leur disais, il va falloir qu'on fasse des efforts en matière de saison. Si on ne leur donne pas un statut à ces plus réactifs saisonniers, on va en manquer. Et aujourd'hui, c'est la cata, quoi. Tout le monde tire la langue parce qu'on ne trouve plus de saisonniers. Et on en rajoute encore une couche. C'est-à-dire qu'on fait une réforme de l'indemnisation du chômage. Bon, on pourra en discuter, mais qui n'est pas du tout adaptée à ces personnes qui travaillent à la saison.
Oui, mais attends.
C'est un double sujet, là.
Je
maîtrise le sujet d'un autre sens.
Parlons,
qui pose un problème.
Parlons, s'il vous plaît, donc de l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Question simple, est-ce vraiment inéluctable ou alors y a-t-il d'autres solutions ?
Bah, c'est pas du tout inéluctable. Personne ne le croit, même pas le président du corps le dit. Alors, la commission d'orientation des retraites, chaque fois j'explique parce que le corps.
Oui, non, mais tu as raison.
Même lui, il le dit. Alors, je crois que. Et ce qu'ils oublient de dire, en plus, ce qui me fait un peu.
Bondir.
Y compris l'opposition, je les trouve pas très, très, très performants parce qu'ils disent rarement, c'est qu'on a des fonds de réserve. On a 150 milliards de fonds de réserve dans les retraites aujourd'hui.
Ouais. Mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Hein.
Ouais, mais c'est ça le problème.
C'est ça le problème, c'est que voilà. Alors non, mais toi tu es. Alors, mais c'est très étonnant parce que toi tu es sur le style. Oh, ça va, on a une poire sur le côté, là, on va pouvoir tranquillement continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Et puis, mais au bout d'un moment, on va la finir, la poire,
on
va la bouffer.
Mais non, parce que le président, le corps t'explique qu'il va y avoir effectivement une période un peu difficile d'une année ou deux, mais qu'après, on repart sur le bon sens. Donc, le fonds des retraites, il sert à ça. Il sert à c'est un fonds de sécurité qui sert à financer les.
Alors, s'il y a tellement d'argent de côté, il faut payer plus les retraités.
On n'en est pas là, mais est-ce que
ça serait une solution, 150 milliards.
Pourquoi, en pleine période de presque la guerre à nos portes, une inflation, on ne sait pas où ça va aller. Gravissime.
Oui.
On nous annonce des chiffres, des nombres à 2 chiffres là, pour bientôt.
Pourquoi pas. Des nombres à 2 chiffres, pourquoi
des problèmes de prix de l'électricité qui ne cessent d'augmenter.
Ça rebaisse un peu.
Un peu, mais enfin, on a encore.
Va au bout de ta question. Pourquoi
ça me fait dire que je ne comprends pas.
Pourquoi
quand on plante une réforme qui est aussi mal perçue par la population à ce moment-là, quoi.
Ouais. Alors,
moi, ce que j'aimerais bien comprendre.
Top. Hop. Temps mort. On va parler de ça. Pourquoi aujourd'hui, avec cette nouvelle réforme qui est en place, pourquoi on n'est pas d'accord? C'est ça, en gros, c'est ça. Et pourquoi la sortir aujourd'hui?
Voilà.
Hein, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on l'a sortie, de toute façon, ça a été le même sujet. Je vous propose d'écouter et de regarder ce sujet. Ça dure 3 minutes, mais c'est pas mal.
Le système de retraite français. Un acquis social depuis 1945 auquel il est bien difficile de s'attaquer.
La retraite, elle est à nous !
Premier exemple en 1991. inquiet du vieillissement croissant de la population et de ses conséquences sur l'équilibre du système de retraite, le Premier ministre Michel Rocard avait des idées, dont celle-ci.
Afin de préserver le système par répartition dans lequel les actifs paient pour les retraites des inactifs, il faut, selon Michel Rocard, progressivement adapter le système. Première variable que l'on peut modifier, le temps de cotisation. C'est le passage des 37 ans et demi à 40 ans de cotisation.
L'âge de départ à la retraite était alors fixé à 60 ans. La proposition du Premier ministre ne faisait donc pas vraiment l'unanimité auprès des syndicats.
Il est question, dangereusement, de remettre en cause l'accès à la retraite à 60 ans.
L'idée de Michel Rocard aboutira avec son successeur, Édouard Balladur, en 1993, mais uniquement pour le secteur privé. Alors, deux ans plus tard, en 1995, le Premier ministre Alain Juppé y pense aussi pour la fonction publique et les régimes spéciaux.
Est-il normal que les uns cotisent 40 ans et les autres 37 ans et demi ?
Réponse immédiate des syndicats de fonctionnaires mobilisés dans toute la France.
On a signé un contrat quand on est rentré dans la fonction publique pour travailler 37 ans et demi. Il n'y a aucune raison que le gouvernement nous trompe à changer un contrat maintenant.
La forte mobilisation de 1995 fera finalement renoncer le gouvernement. Mais 8 ans plus tard, en 2003, autre tentative du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Sa nouvelle réforme des retraites vise encore une fois le secteur public. Elle est alors défendue par son ministre des Affaires sociales, François Fillon.
Alors, on augmentera progressivement la durée de cotisation pour passer à 41 ans en 2012.
Là encore, l'idée a du mal à passer auprès des syndicats de fonctionnaires. Malgré les contestations, le texte de Jean-Pierre Raffarin est voté. 4 ans plus tard, en 2007, la nouvelle réforme du président Sarkozy prévoyait aussi un allongement de la durée de cotisation, mais pour les régimes spéciaux. Les syndicats de cheminots montaient au créneau.
Maintenant, on va me dire, alors que je cotise depuis 31 ans plus que tout le monde, on va me dire qu'il faut que j'aille plus loin. Non, il n'en est pas question, hein.
Cette fois-ci, le gouvernement ne cédera pas, mais accordait des compensations aux cheminots. En 2010, nouvelle réforme des retraites sous la présidence Sarkozy. Et les manifestations étaient encore massives.
On est privé pour la gagner, on se battra pour la garder.
Cette année-là, l'âge légal de départ à la retraite est définitivement repoussé à 62 ans. Aujourd'hui, le système de retraite français est toujours un sujet de crispation. Pour les deux finalistes à l'élection présidentielle, une réforme semble inévitable.
C'était donc ce petit reportage hein, qui était sorti un petit peu avant l'élection, hein, la deuxième élection d'Emmanuel Macron. Donc voilà, ça fait 30 ans que ça dure.
Il manque une chose hein, dans ce reportage.
Oui, mais enfin, ça fait 30 ans que ça dure.
Mais il y a encore une autre réforme qui est passée là. C'est celle, la réforme Touraine.
Oui, je l'avais noté, effectivement.
Qui
est arrivée, la réforme Touraine, en 2014.
Sur Hollande.
Oui, absolument. Et,
non, mais parce que ce qui me scandalise aussi, c'est que la réforme Touraine n'est pas encore au bout de son application, puisque c'est progressif au niveau de la durée de cotisation. Elle n'est pas au bout qu'on refait encore une réforme. On passe notre temps dans ce pays à faire des réformes sur le régime.
Oui, mais enfin, on passe notre temps depuis 30 ans à faire des réformes qui sont refusées dès l'instant où on touche à ce totem qui est donc la retraite.
Mais oui, forcément.
Mais moi, je voudrais un peu savoir quand même, parce que tu parles de 150 milliards de cagnotte, moi je veux bien, mais est-ce qu'on a besoin d'une réforme, oui ou non? Si on a besoin d'une réforme, bon, il faut se mettre autour de la table. Si on n'en a pas besoin, c'est différent. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que toi, tu es pour l'égalité le partage, etc. Moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, il y a encore l'ambiguïté sur des régimes spéciaux, parce que le travail, il est pénible pour tout le monde. Le travail, c'est compliqué pour tout le monde. Les conditions de vie des travailleurs se sont améliorées, et c'est tant mieux, mais ça s'est amélioré pour tout le monde. Quand je vois les différences qu'il y a sur les régimes spéciaux, des gens, je vous rappelle que en fin d'année, sur les agriculteurs, on a enfin obtenu que la retraite soit calculée sur les 25 meilleures années, alors qu'avant, on était sur une carrière totale. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens, aujourd'hui, qui aient un calcul de la retraite sur leurs 5 dernières années. Je veux bien, mais... les choses changent, quoi, Jean-Claude.
Je vais peut-être t'étonner. Je ne suis pas contre.
Ah, d'accord. Mais il faut graser gratuit, toi, tu n'es pas contre.
Je
ne
suis pas
hein.
du tout contre qu'il y ait des discussions pour améliorer le système actuel et le rendre plus juste. Moi, je ne suis pas du tout contre. Après, il faut regarder dans les détails. Hein, moi, je connais un régime spécial. Lui, il est excédentaire, il reverse au régime général. Hein.
Bah, comme ouais. la plupart des régimes accidentaires.
Oui, mais c'est une obligation. Mais moi, je ne suis pas du tout contre. Notamment sur les problèmes de pénibilité, les problèmes de carrière longue, il faut faire des réformes. Il faut améliorer le système dans lequel on est. Mais on n'est pas obligé de passer de 62 à 64 ans. C'est ça qui pose problème. D'ailleurs, vous avez bien vu la position de la CFDT, qui est quand même un syndicat réformiste. Habituellement, ils sont plutôt à l'écoute des propositions du gouvernement. Là, c'est niet, c'est la ligne rouge qu'il ne faut pas passer. Et je trouve que c'est très maladroit de la part de nos hommes et nos femmes politiques. D'ailleurs, ils sont très mauvais, en parenthèse. Le ministre du Travail, plus mauvais que ça, tu meurs, quoi. L'un jour, j'entendais un gars qui disait qu'il serait bon à peine à vendre des voitures d'occasion chez Citroën.
Ouais, mais ça, c'était quand tu manifestais. Donc, moi, j'aimerais bien entendre un peu Éric Gorge.
Ouais, moi aussi.
Alors, moi, je crois que je suis assez clair sur le sujet. Je vais peut-être vous surprendre. Je suis contre le départ à 64. Je pense que le 62, c'est une limite qui est quand même raisonnable, mais je pense qu'il y a autre chose à faire que de repousser l'âge. Et comme disait Bruno, je pense que si on mettait déjà un pied d'égalité sur la totalité des salariés, qu'on soit dans le privé, dans le public, dans une entreprise nationale qui est protégée, si la SNCF, EDF et tout ce qu'on peut, et d'autres régimes spéciaux qui sont quand même très compliqués et très avantageux, alors certainement il y a des acquis. Mais à un moment ou à un autre, les acquis, quand on signe un contrat de travail dans une entreprise privée, on signe aussi un contrat de travail avec l'âge de la retraite qui est prévu à la signature du contrat. Donc c'est aussi une clause. Donc moi je pense que si on remettait tout à plat cette histoire de pénibilité, comment on gère la fin de carrière de tout salarié, c'est-à-dire 50 ans, un point, 55, on a des besoins, pas tout le monde sera sur la même. Est-ce qu'on est propriétaire, pas propriétaire, les besoins des uns et des autres, le salaire, si on est cadre, si on n'est pas cadre. Et je pense qu'on doit pouvoir avoir une vraie réflexion collective.
Oui, collective.
Un vrai challenge national, en fait, à proposer à la population française.
Loin. On n'est pas très loin, Eric.
Je pense que c'est un peu ça que je trouve qu'on a du mal à. On n'a pas cette discussion-là qui mettrait, en fait, un.
Je suis entièrement d'accord avec Eric. Il a employé un mot qui est important, qui est collectif. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, d'un point de vue, je ne sais pas comment dire, presque sociologique, c'est que quand j'entends les gens autour de moi sur cette réforme de retraite, je n'entends que du moi-je. Ah, mais alors, tu vois, moi, j'ai fait mon calcul. Et puis alors du coup, je vais devoir aller jusqu'à plus de 64 ans. Puis là, je perds 3 mois. Et puis moi, puis dans ma profession. Et je n'entends jamais personne parler en termes collectifs, comme on peut l'entendre dans d'autres pays, en Allemagne ou autre, qui a cette capacité de réforme. Et je trouve que ce mot, il est super important. Il faut penser aussi aux générations d'après et avoir une réflexion plus générale et sortir un peu du petit bout de la lorgnette et du moi-je.
Moi, je suis assez d'accord. Hein. J'ai la même analyse que vous. C'est une démarche collective.
Bon, ben, on s'en va alors.
Non, mais complètement d'accord.
Qu'est-ce qu'on fait sur les régimes spéciaux, par exemple?
Il faut peut-être les faire évoluer. Moi, je ne suis pas complètement bloqué. Mais ça rentre dans le cadre de ce qu'a dit Eric, dans le cadre d'un dialogue constructif qui ne va pas à la hache comme c'est. Mais je ne sais pas, moi. Mais franchement, nos gouvernants. Moi, j'ai voté pour Macron, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour faire barrage à l'extrême droite. Mais je trouve qu'ils sont nuls dans cette affaire. Ils sont pas bons, quoi. Y compris les ministres qui portent la réforme, ça passe pas. Elle va se casser la gueule, cette réforme. Même la droite en veut plus de cette réforme. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'il la retire rapidement, qu'il engage des discussions, effectivement, allant à moyen et long terme sur les régimes spéciaux. Mais il y a un problème qui n'est pas abordé, ou très mal, là, pour l'instant, c'est les carrières longues et les gens qui ont commencé à travailler très tôt et qui ont des métiers pénibles et qui, à partir de 55 ans...
C'est quoi 57, un métier pénible?
Mais c'est ça. On les connaît, les métiers pénibles.
Non, on ne les connaît pas.
Parce que les métiers pénibles d'aujourd'hui, c'est plus les métiers d'il y a 30 ans.
Les gens qui travaillent dans le BTP, par exemple, c'est des métiers pénibles qui travaillent
au froid. Mais tout le monde va dire ça.
Qui travaillent au froid, qui travaillent à la chaleur l'été, c'est des pénibles.
Par exemple, le métier de celui qui se lève tous les jours à 4h du matin. Est-ce que c'est un métier pénible?
Ben oui.
Celui qui travaille la nuit. Celui qui travaille la nuit, c'est pénible.
C'est ton cas d'ailleurs, Thierry.
Exactement.
Tu fais des matinales à la radio.
Exactement.
Ben oui, c'est pour ça qu'il pose.
Eh ben non, je me posais la question parce que moi, je trouve pas que c'est un métier pénible.
Mais tant mieux pour toi, parce que tu t'es adapté à ce rythme. Tant mieux.
Dès l'instant où tu fais un métier, un métier parce que tu as envie de faire ce métier.
Oui.
Tu le fais parce que tu as envie de le faire. C'est pas pour dire 10 ans après, ah oui, mais c'est pénible. Bah alors tu fais autre chose.
Oui,
je vais pas dire c'est pénible.
Chaque métier est aussi différent d'une entreprise à l'autre. Quand on soit dans une PME ou dans un grand groupe, on n'a pas non plus les mêmes avantages sur les métiers qui sont strictement identiques avec les mêmes conditions de pénibilité. On a des entreprises qui ont peut-être plus de moyens que d'autres, qui font plus de
prévention.
Mettre une pénibilité de façon systématique et générale, moi je suis pas très sûr que qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. Si d'ailleurs, tu, si ça a été retiré, c'est pas pour rien.
Tu as raison, si tu demandes à n'importe quel travailleur de n'importe quelle entreprise, aujourd'hui, s'il fait un métier pénible, tu verras qu'il y en a beaucoup qui diront « Ah oui, moi je fais un métier pénible. » Même
bien
celui
sûr,
qui est assis derrière un ordinateur, parce que ça casse le dos, parce que ça casse les coudes, parce que et autre chose, parce que ça casse. T'as beau dire ce que tu veux, il y a les gens qui sont dehors. Bien sûr que c'est pénible d'être dehors aussi. Mais voilà, je veux dire, si tu commences à t'arrêter à ça,
tu as dit une chose
toutes
importante.
Les pénibilités seront reconnues.
Tout à l'heure, tu as dit une chose très importante. C'est pourquoi tu viens travailler à 4 heures le matin ? Parce que ce que tu fais te plaît.
Bien sûr.
Voilà, tu es passionné par ce que tu fais.
Bien
le
sûr.
Problème, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler à l'usine ou ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Moi, j'écoutais des témoignages, c'est catastrophique. Des gens qui te disent je viens travailler en marche arrière. Et on revient sur le débat qu'on a eu tout à l'heure au début de notre émission, c'est que il faut rendre nos métiers attractifs, mais sur le fond, c'est-à-dire que les gens aient envie d'y aller. Quoi.
Oui, mais si tu perds aussi cette notion de travail, cette notion que je disais tout à l'heure, à un moment donné, ta passion, elle ne sera nulle part. Plus nulle part. Si tu consommes un métier juste pour avoir un peu d'argent à la fin du mois, pour pouvoir faire des trucs à côté, la passion va petit à petit disparaître. Et on voit un peu dans les recrutements qu'on fait aujourd'hui,
c'est déjà
les demandes qui sont faites, il n'y a aucune question qui est liée à l'intérêt du métier.
Oui, c'est des questions qui sont liées à
quels avantages je peux avoir à côté, quel temps libre je peux
quand
avoir,
quand je vais travailler, combien d'heures, comment ça va se passer.
Le 4 jours, il me faut finir à 5 heures, on est aussi dans un contexte...
Il faut faire 2 jours de télétravail, il faut faire des trucs, enfin, c'est la folie.
Ouais, et puis on est aujourd'hui aussi sur un sujet sociétal...
Moi, je n'ai pas envie d'être négatif comme vous. Je pense
et pourtant,
que...
Jean-Claude, il faut ouvrir les yeux, parce que la réalité, elle est là. Les gens, ils viennent plus chercher un travail, ils viennent chercher un salaire, c'est ce que tu disais. Ils viennent consommer, ils veulent une certaine... Bah
écoute, moi, je sais pas, je suis dans un îlot.
Non, mais
moi, je suis
dans un îlot.
J'ai 22 salariés. Non, pas du tout. Si. Ça n'a rien à voir avec l'idéologie. Moi, j'ai la responsabilité de 22 salariés. Ce soir, je vais assister en fait les vœux avec les salariés. Je vais leur présenter mes vœux en tant que président. Et bien, moi, mes 22 salariés, ce que tous les jours, mon souci, c'est qu'ils soient bien dans leur peau, qu'on réponde à leurs problématiques.
Alors, Jean-Claude, je vais te faire bondir, mais toi, tu as des salariés qui n'ont qu'un seul client, qu'un seul fournisseur.
Oh putain!
Eh oui!
On a 10 000 adhérents, on a 15 000 personnes couvertes.
Tu n'as qu'un seul client, fournisseur, tu fais des factures qui n'a qu'une seule caisse, les caisses sociales. Moi, je veux bien, mais si tu vas dans le privé, c'est différent quand même.
Tu sais pas ce que c'est qu'une mutuelle, manifestement. Moi, j'ai 10 000 adhérents, j'ai affaire à 10 000 personnes différentes qui sont très, très exigeantes.
Mais ils sont tous payés par le même client.
On disait tous les matins, quand on s'est vu avec Eric, tous les matins on a des problèmes à régler. Toutes les heures, toutes les deux heures, on a des problèmes à régler en tant que responsable. Ma directrice, je l'ai 3 fois par jour au téléphone. Donc, je sais très bien ce qu'il faut faire. Mais moi, mon souci, c'est que les salariés soient bien dans leur peau et qu'on puisse leur faire confiance et travailler sur quelque chose et qu'il y ait du sens.